Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Conseil de famille consacré au sommeil. Aujourd'hui, ce conseil de famille s'est installé dans les locaux de la médiathèque Confluence à l'Audève. Merci de nous accueillir. Un endroit idéal pour enregistrer cette émission en public, puisque aujourd'hui, jeudi 10 mars, j'ai appris ce matin en écoutant la radio que tous les Français étaient appelés à lire au moins 15 minutes à 10 heures. Voilà, je ne sais pas, vous me direz les filles si vous avez eu le temps de faire ça. Mais nous n'allons pas parler directement de lecture, pourtant nous sommes dans une médiathèque. Et bien que la lecture puisse aider à l'endormissement, puisque nous allons parler aujourd'hui du sommeil. Autour de cette table, les invités et chroniqueuses. Alors, Anne-Marie Stams, coordinatrice du programme de réussite éducative à l'Audève. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Laurence.
On accueille, et c'est une première pour elle, Maude Fréchou, psychologue et coordinatrice de l'école des parents et des éducateurs.
Bonjour Laurence.
Bonjour Maude. Ça va ?
Oui, ça va très
bien. Pas trop stressée pour cette première ?
Un peu.
Et puis on accueille aussi Virginie qui travaille à la médiathèque Confluence. Virginie qui est en charge du secteur enfance ici. C'est ça ?
Oui, tout à fait. Bonjour.
Bonjour, bienvenue et merci de nous accueillir.
Avec plaisir.
Et bonjour Laurence qui travaille pour la maison des adolescents et qui a une permanence sur l'Audève tous les jeudis au CIS.
Merci Anne-Marie. Alors, le sommeil a un rôle essentiel dans notre vie. Une bonne qualité de sommeil agit sur notre mémoire, sur notre immunité, sur la croissance des enfants et entre autres sur les apprentissages. Nous passons plus d'un tiers de notre vie à dormir, mais une étude démontre que les Français dorment dans l'ensemble 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Pour quelle raison ? Peut-être parce que nous passons plus de temps devant nos écrans. Nous allons voir ensemble comment bien dormir est essentiel et comment le sommeil, quand il est perturbé, peut nous rendre complètement marteau, ou presque. Voilà. On démarre tout de suite par ce témoignage, celui d'un petit garçon et de son papa. Tu disais que toi, tu t'endormais très tard. Est-ce que tu sais à peu près à quelle heure tu t'endors ?
Non.
Et comment tu sais que tu t'endors très tard ?
Parce que quand papa va se coucher ou maman va se coucher, je suis encore debout.
Tu es encore debout ?
Je suis dans le lit, mais je ne suis pas endormie. Hein.
D'accord, donc tu sais que c'est tard. Et toi ? Comment tu dors la nuit ? Tu dors bien ?
Oui.
Oui ?
Je me couche. C'est pas très tard.
Tu t'endors avant ton frère ?
Oui.
Oui.
Beaucoup avant.
Mais dis-moi, Léon, c'est pas toi qui es somnambule un peu ?
Si.
Tu te balades dans la maison ? Qu'est-ce qu'on t'a raconté sur ça ?
Que je m'avais levée, que j'étais descendue de mon lit et que j'étais descendue juste devant ma porte et que quand papa et maman étaient... Non, c'était en pleine nuit et ils m'entendaient, du coup ils sont descendus et ils m'ont vue dans le couloir.
Ouais, et ils t'ont parlé ?
Je n'ai pas entendu, enfin, je ne me rappelle plus.
Ils t'ont dit d'aller te recoucher, t'as dû aller te recoucher, c'est ça ?
Oui.
Ouais. Et t'es très souvent somnambule ?
Non.
Non. Et tu fais des cauchemars la nuit ?
Non.
Non. Et tes rêves, tu t'en souviens ?
Non.
Non.
Depuis tout petit, il a eu des sommeils dits agités. Et aujourd'hui, il a 8 ans, mais il dort beaucoup mieux. Il se réveille beaucoup moins, voire pas du tout même. Il fait des nuits complètes. Par contre, il a des nuits très mouvementées, quoi. On l'entend parler très clairement. Et il est pris dans des rêves qui ont l'air assez vrais, enfin qui sont assez forts apparemment. Ça réveille, ça surprend toujours la nuit parce qu'on se fait réveiller par des cris ou par des appels très loin où il appelle quelqu'un. Où c'est ça. Et puis effectivement, parfois ça va jusqu'à des crises de somnambulisme où là il va se lever. Il est complètement hagard dans le couloir. Il ne sait pas trop où il est.
Qu'est-ce que vous faites si vous le retrouvez debout
là ? On le raccompagne jusqu'au lit et puis on lui dit retourne te coucher et voilà.
Et tu comprends tout de suite qu'il est somnambule ?
Ouais.
Pourquoi ?
Ouais. Dans sa manière d'être, il a le regard qui se pose pas, qui cherche. On sent bien qu'il comprend pas trop où il est. Pourtant c'est un endroit qu'il connaît parce que c'est soit sa chambre, soit le couloir, donc. Et puis, ce qu'il dit aussi, parfois peu compréhensible ou pas du tout sensé, quoi. Les nuits ont jamais été très très bonnes dès le départ. Il se réveillait énormément la nuit, et souvent en pleurs, mais tout de suite. C'est-à-dire que c'était souvent la première chose qu'on entendait, c'était un pleur très très soudain et très fort. Et en général, ça se calmait dans les secondes qui suivent, où il fallait aller le voir, lui poser une main sur la poitrine, le rassurer, et ça disparaissait aussi vite que c'était arrivé.
Est-ce que
et ça pouvait se reproduire plusieurs fois comme ça dans la nuit.
Donc ça vous réveillait.
Ouais.
Est-ce que c'était contraignant?
À la longue, c'était très très usant, puisque ça n'a pas duré que 2 semaines, ça a pratiquement duré 3 ans, on va dire. Et après, à l'arrivée de sa sœur, ça s'est calmé.
Voilà, c'est quelque chose qu'on entend souvent hein, pour les petits quand ils ne dorment pas. Les aînés, par exemple, à l'arrivée d'un second, ils se mettent à dormir finalement. Bon là, le second est arrivé 3 ans après la naissance du premier. Donc pendant 3 ans, quand même, j'ai cru comprendre que ça avait été très compliqué.
Oui, j'ai cru comprendre aussi mais que c'était très compliqué, que c'est toujours quand même pas complètement réglé. Mais bon, en tout cas, il y a une nette amélioration avec l'arrivée du deuxième.
Après, on parle quand même d'un enfant qui est atteint de somnambulisme.
Oui.
Donc c'est quand même encore autre chose. C'est pas vraiment le sommet, on va dire... normalisé, quoi. On est quand même sur quelque chose d'assez particulier. Mais c'est vrai que ce que moi je retrouve beaucoup dans le point coûte, c'est que j'anime, c'est que à partir du moment où il y a un deuxième enfant, c'est comme s'il est né, il y avait quelque chose au niveau des places qui se modifiait. C'est-à-dire que l'aîné se sent grandi quelque part. Et donc, du coup, il s'autorise peut-être à laisser la place à l'autre. Enfin, il y a effectivement ce phénomène qui est là, mais qui est déstabilisant aussi pour les parents, parce que les parents ben, disent, on y retourne. C'est-à-dire qu'on a eu le premier, ça a été compliqué. ça y est, ça s'est réglé, et puis ça passe à l'autre. Alors, en fait, ils n'ont pas de répit, quoi. Ce phénomène un peu de retourner finalement dans un nouveau cycle, et on sait très bien que cette période de tout petit chez les parents est une période qui est très très difficile. Enfin, moi j'ai des souvenirs de maman qui, il y a un épuisement qui est là, et elles sont très 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 fatiguées, quoi. Très 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 fatiguées. Avec cette notion de doit-il être dans mon lit, pas dans mon lit,
oui.
Est-ce que je le laisse, est-ce que
j'explore,
pourquoi.
Le sommeil des enfants qui pose question, mais il y a le sommeil des parents aussi qui pose question, parce que le manque de sommeil, évidemment, fait aussi qu'on a moins de patience, qu'on est plus stressé, etc. Enfin, il y a des conséquences autant chez l'enfant que chez l'adulte, hein, du manque de sommeil.
Donc, tout à fait. Et moi, c'est vrai que cette question-là, je l'avais travaillée sur une intervention que j'avais eue autour de la parentalité, mais au niveau la parentalité dans tous les pays, quoi. Comment ça se passe ailleurs. Et il y avait un bouquin que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle « Comment les bébés gardent les Esquimaux au chaud ». Je le dis parce que c'est un bouquin que j'ai lu pendant ma...
C'est pas « Comment les Esquimaux gardent les bébés au chaud ».
Mais si, c'est ça. J'ai dit quoi ?
Dans l'autre sens, mais c'est pas grave.
Ah, mais
c'est
merci,
pas grave, c'est pas grave.
Et c'est un livre que je conseille beaucoup parce que moi je l'ai lu en étant maman. Et en fait, ils expliquent que la culture, en tout cas occidentale, de chez nous, on a cette idée très marquée que l'enfant doit avoir sa chambre à tout prix.
Oui.
Très tôt.
Des fois,
3 mois,
oui,
dit aux
oui,
parents,
oui.
Alors il fait ses nuits.
Il dort dans son lit.
Il dort pas dans son lit.
Il dort pas dans sa chambre.
Voilà. Et ça, c'est très occidental. Il y a des pays, notamment en Amérique du Sud, moi j'ai trouvé ça génialissime. Où les enfants ils dorment quand ils ont envie en fait, et ils dorment avec les parents, quoi. C'est-à-dire que on se mélange, les enfants sont fatigués, pouf, ils se couchent, ils dorment, peu importe où ils sont, sur le canapé, au restaurant, et du coup ça. Bon, après, il y a tout un rythme culturel, c'est-à-dire que l'école commence à 10 heures. Enfin, voilà, nous, on n'est pas dans un pays où, effectivement, on a ce type de rythme. Et je trouve que nous, on met la pression, quoi.
Oui.
Le sommeil, c'est pas automatique. C'est-à-dire que on sait très bien que les micro-réveils, que le rythme du sommeil met beaucoup d'années à se mettre en place. Les enfants, ça bouge beaucoup pendant des années. Ça se réveille beaucoup. Alors, c'est des micro-réveils, c'est pas un réveil comme on l'entend, mais des petits micro-réveils. Un sommeil stable, ça met des années. Et on a l'impression qu'à 3 mois, il faudrait que les enfants ils dorment. Ce qui est faux.
Oui.
Ce qui est totalement faux.
Donc il ne faut pas s'inquiéter quand on a des tout petits qui ne dorment pas.
Par contre,
des tout petits et un peu plus grands d'ailleurs.
C'est le manque de sommeil du parent qui, lui, doit se lève. Voilà. C'est vrai que c'est très fatigant.
Des fois, c'est l'entrée à l'école, je pense 3 ans par exemple, des fois, c'est l'entrée à l'école qui fait que l'enfant, sûrement, va peut-être plus se fatiguer, enfin, quelque chose comme ça, peut-être que les siestes sont compliquées à l'école. et il va se mettre à dormir une fois arrivé à la maison.
Ben, tu as raison, Laurence. Moi, j'ai remarqué quelque chose que moi, je vois chez moi aussi à la maison, c'est que quand il y a les périodes de vacances scolaires, les enfants, ils font des activités, mais c'est moins fatigant. On sent bien, il y a un trop-plein. Enfin, moi, je le vis, hein. Il y a un trop-plein d'énergie le soir que je ne repère pas quand il y a l'école.
Oui.
Ou quand il y a l'école, effectivement, ben, le matin, on se lève à 7 heures. Voilà, c'est...
Mais attention, ça peut être l'inverse aussi.
C'est-à-dire
l'entrée à l'école où le problème du sommeil arrive.
Ah,
par angoisse.
Ça existe aussi.
Par trop de fatigue, parce qu'on sait très bien qu'après, les enfants tiennent sur les nerfs, et qu'une fois qu'ils sont dans cet état-là, pour les endormir, eh bien, ça prend beaucoup de temps. Donc, il peut y avoir l'effet inverse aussi.
À partir de quand faut-il s'inquiéter quand un enfant ne dort pas?
Moi, j'ai tendance à dire pas avant 6 ans. Moi, je pense que ça prend du temps. Je dis 6 ans parce que je sais que les enfants bougent beaucoup la nuit jusqu'à au moins 6-7 ans. Après, il y a aussi des événements de vie. L'arrivée d'une petite sœur ou d'un petit frère, des parents qui ont des soucis, qui se séparent, l'arrivée à l'école. Il y a tellement de facteurs qui peuvent perturber. On le voit bien, nous, en tant qu'adultes. À quel point le sommeil, il y a tellement de gens qui dorment pas bien dans notre société, l'anxiété, je dirais actuelle, hein, on prend l'actualité, mais font qu'il y a énormément de gens qui prennent des traitements pour dormir.
En tout cas, moi, je dis toujours aux parents, si on est vraiment inquiet, d'aller consulter, ça mange pas de pain, voilà. Hein,
d'aller voir un pédiatre, là.
Un pédiatre ou un professionnel, en tout cas.
Ou le médecin généraliste, même.
Le médecin généraliste, d'en parler, de voir un petit peu, évaluer et peut-être se rassurer ou peut-être se dire, oui, là, il faudrait peut-être s'inquiéter. Mais bien souvent, il s'agit quand même de souvent se rassurer les parents. Et donc, il ne faut pas, en tout cas, se dire, bon, avant 6 ans, je ne fais rien du tout. Non, si on est vraiment inquiet, on va voir un professionnel et puis on pose des questions. Il n'y a pas de honte à poser de questions et se faire rassurer ou aider, accompagner.
Et à partir de quel âge on peut estimer qu'un enfant est en capacité de dormir tout seul?
Ça dépend des enfants. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles là pour le coup là.
En plus, c'est culturel.
En plus,
j'imagine que chez les Esquimaux, on leur fait pas leur petit igloo tout seul.
En Afrique, c'est différent qu'en Europe, qu'en Asie. Selon les pays, on n'a pas du tout les mêmes rituels. Là, moi, j'entends aussi le. C'est important les rituels aussi, c'est-à-dire qu'un enfant, quand il va se coucher, il a besoin d'avoir des étapes qui viennent annoncer le sommeil. La lecture.
Souvent une petite histoire.
C'est hyper important. Il y a le fermer les volets. Ça paraît bête, hein, mais on ferme les volets, on met la nuit. La nuit arrive. Voilà, mais ça peut être source d'angoisse aussi pour les enfants, hein, ce moment-là. Même si le sommeil se stabilise, il arrive aussi qu'à l'âge d'entre, on va dire, 5 ans, c'est les cauchemars qui apparaissent. C'est encore une période qui réapparaissent, Et donc, c'est encore une autre période où les parents, ils retournent dans un système de ça hurle en pleine nuit. Alors, des fois, les enfants se rendorment tout seuls. Parfois, ils ont besoin des parents pour les rassurer. Mais moi, par contre, ce que je propose toujours aux parents, c'est quand un enfant pleure, il a besoin d'une présence. Voilà. Si l'enfant se réveille, allez le voir. Je sais que c'est fatigant. Mais effectivement, l'enfant, il est tout seul dans son lit. C'est pas trop ce qui se passe. Et d'aller le voir, lui faire un câlin, voir un peu dans quel état émotionnel il est, ça peut faire du bien, quoi.
Alors, avant d'écouter la chronique réalisée par Valérie Orvin, qui nous accompagne d'habitude sur cette émission, mais qui n'a pas pu être présente là sur ce conseil de famille, dans les explications, vous en avez donné quelques-unes là, sur les difficultés à s'endormir. Moi, je retrouvais en préparant cette émission l'hygiène de vie aussi. Alors la lumière, on l'a dit, hein, bien sûr, fermer les volets, se mettre dans une situation plus obscure, etc. Il y a l'utilisation tardive des écrans. Ça, on ne le voit pas que chez les enfants. On le voit chez les ados et chez les parents. Alors, on parle de la lumière bleue. Ça vous dit quelque chose?
Oui, ben, il paraît que les dernières études qui sortent, que ce ne soit pas si dû à la lumière bleue, finalement.
Donc, d'accord, que la lumière bleue n'aurait finalement pas tellement d'impact que ça.
C'est ça, et que ça serait plutôt quelque chose d'autre qui ne permet pas d'arrêter cet écran ou de retrouver... en tout cas, la disposition corporelle, on va dire, pour dormir. Bon, je n'ai pas réussi à retrouver l'étude là de suite, donc apprendre avec des pincettes, mais je pense que voilà, effectivement, la recherche avance aussi et qu'on était longtemps sur une diabolisation des écrans aussi, même si elles ont toujours leurs dangers. Attention, hein, je ne suis pas là en train de dire qu'il faut passer sa journée devant les écrans.
Sa soirée
devant non plus. Il est toujours conseillé, effectivement, de ne pas être sur un écran, ni télé, ni quoi que ce soit avant l'endormissement. Mais pas forcément à cause de la lumière bleue.
Ok, on écoute tout de suite la chronique de Valérie Orvin, qui est responsable de l'association Grandir Ensemble.
Mélatonine, c'est le nom de l'hormone qui déclenche le sommeil avec sa copine valentonine et aussi sérotonine qui nous met de bonne humeur et régule le stress et le sommeil. Tous ces jolis mots en ine. Une fois de plus, pour ce besoin de base, les hormones sont en jeu, mais pas que. Le sommeil, c'est ce temps de pause absolument nécessaire à notre survie, à la régénération de nos cellules et de notre cerveau, et dont le manque total est délétère. La mouche tsetse, oui, celle de la légende, en réalité ne fait pas dormir, mais empêche le sommeil. Et quand on est piqué, on ne dort plus du tout, et alors on meurt. Waouh ! Récemment, j'ai assisté avec beaucoup de joie à un spectacle « Routine » avec Saïd, un acrobate trop fort. Saïd mime, entre autres, une scène d'insomnie, d'agitation nocturne dont la résolution se trouve dans le fait de se mettre en action et d'essayer, de recommencer, de faire, de refaire, de créer, d'inventer, de bouger. Et oui, nos nuits sont conditionnées par nos jours. Pour les enfants, jouer, courir, rire, être dehors, se dépenser, comme on dit, favorisera un sommeil tranquille, bien plus qu'être assis devant un écran. C'est d'une logique implacable. Repas léger et tôt le soir, pas de sucre ni de e-truc hein, qui nous agite. On en a parlé dans le magazine du mois dernier sur l'alimentation. Et puis, l'autre jour, je croise un copain qui vient d'avoir un bébé et quelqu'un lui pose cette fameuse question. Alors, il fait ses nuits ? Oui, bien sûr, un bébé fait toujours ses nuits. Ce sont les nôtres qu'il ne fait pas. Avec un bébé, nous sommes parents jour et nuit, comme dit Catherine de Montaigre-Crémer. Il demande attention et réassurance 24 heures sur 24. Le prévoir, ça permet de ne pas être trop frustré ni énervé par les temps de sommeil découpés en tout petits morceaux. C'est un peu comme naviguer en mer, on fait des quarts. Et puis, il y a des trucs à savoir. Un bébé ne peut pas s'endormir si ses besoins de base ne sont pas nourris, bien sûr. Être propre, avoir chaud, être rassasié et hydraté. Et puis aussi, s'il a peur, par exemple. Et sa sécurité, ce sont ses parents. Pour se détendre et accéder au sommeil, il a besoin de leur présence réconfortante. Le plus simple, c'est de dormir avec lui. Parce qu'en plus, quand on dort avec son bébé, les respirations se synchronisent et notre sommeil à nous, adultes, est bien plus réparateur. Et puis, on n'a pas à se lever sans arrêt. Certains parents préfèrent mettre le matelas à côté du lit du bébé et se relayer, et puis se rejoindre quand le nourrisson dort à point fermé. Dans la journée, quand on vit avec un bébé, profitons de chaque précieux moment où il dort pour dormir aussi, même une micro-sieste. La petite enfance, c'est une course de fond exigeante. Économisons notre énergie au maximum et essayons de pratiquer une activité qui nous ressource chaque jour. Le sommeil. On a encore beaucoup d'idées reçues à ce sujet. Le sommeil n'est pas un dressage. Un enfant ne se réveille pas pour le plaisir de se réveiller. Et s'il ne se rendort pas de suite, ce n'est pas non plus pour embêter ses parents. Rosa Jauvé, qui est spécialiste du sommeil de l'enfant dans son livre « Dormir sans larmes », nous rappelle qu'un bébé sait dormir. Il n'a pas à apprendre. Quand les conditions sont réunies, l'enfant s'endort naturellement. Et c'est vers 5-6 ans qu'il accède à un sommeil proche de celui des adultes. Elle donne des clés pour que les nuits se passent le mieux possible et elle encourage l'allaitement et parle aussi du cododo. Catherine Guéguen, elle, ajoute « L'enfant ne pleure pas pour rien, il pleure toujours pour quelque chose. C'est un appel au secours et quand il n'est pas entendu, son amygdale cérébrale va s'activer et fabriquer des molécules de stress, ce qui ne favorise pas le sommeil du tout. » Le pleur du bébé est un réflexe, nous dit Isabelle Filioza. C'est automatique, c'est une réponse parce qu'il y a un besoin, le corps se met en mouvement. Il ne peut pas, à cet âge-là, si précoce, avoir quelque intention que ce soit. Non, il ne peut pas chercher à nous manipuler. Ne pas laisser son bébé pleurer ne signifie pas pour autant combattre les pleurs à tout prix, mais les accompagner, garder le bébé dans ses bras et se mettre au calme le plus possible en soi. Ainsi, les neurones miroirs et la respiration tranquille de l'adulte permettront au bébé de retrouver son calme quand toute la tension sera évacuée. Bon, l'essentiel dans tout ça, c'est d'être à l'écoute de son enfant et de garder confiance en soi. Allez, explorons quelques pistes. Alors, on peut, avec l'enfant, repérer l'ordre des actions avant de dormir, la petite routine d'avant-dodo pour l'intégrer et en prendre l'habitude. D'abord la douche, le repas, ou dans l'autre sens, laver les dents, etc. On peut parler des trois plaisirs du jour. Peut-être aussi on peut dire les émotions de la journée, tout en allant décrescendo dans le rythme. Il s'agit bien sûr tout d'abord de repérer le besoin, hein, les yeux qui piquent, l'enfant qui se frotte les oreilles, qui bâille. On le nomme et puis on invite l'enfant à reconnaître ce moment. Je vois que t'as les yeux qui papillonnent, louloute, puis tu bâilles. Est-ce que t'as sommeil? Allez, viens, on y va. On peut choisir des petits rituels du coucher pour accompagner notre enfant à s'endormir. Si l'enfant a peur des trucs dans le noir, on fait d'abord le tour de la chambre ensemble et on range tout ce qui dépasse. On peut dire bonsoir à toutes ses peluches, à tous ses jouets. L'enfant peut dire bonne nuit à tout ce petit monde-là. Raconter une histoire, chanter une berceuse. Chuchoter, parler très doucement et calmement. Baisser la lumière. Avoir des gestes lents plutôt que parler fort et s'énerver. Quand on veut forcer quelqu'un à faire quelque chose, c'est le contraire qui se passe, vous vous souvenez? Masser ses mains, masser ses pieds, mettre notre main sur ses yeux délicatement, faire un câlin et respirer au même rythme que lui. En plus, comme ça, on fait le plein d'ocytocine, cette hormone qui nous calme et nous rend heureux. On peut aussi, par exemple, prendre un doudou, demander à l'enfant de s'allonger et le poser sur son ventre. Tu vas respirer et au fur et à mesure, avec ta respiration, ton doudou va s'endormir sur ton ventre. L'enfant s'apaise et en plus, trouve de la satisfaction à endormir son doudou. Après tout ça, il y a de fortes chances pour qu'on s'endorme aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Et bonne nuit.
Voilà, ben bonne nuit. On va s'endormir après cette belle chronique. Merci à Valérie. Ça paraît facile quand on l'écoute comme ça, Valérie. Vous en pensez quoi, vous? Hein? C'est ça. Pff, on se dit, mais pouf.
Ben voilà, hein? On a recette magique. C'est ça. Voilà, on fait ça et hop là, ça marche. Eh ben non, malheureusement, je crois que tout parent peut en témoigner que la recette magique, il n'y en a pas et qu'il y a des hauts et des bas, des moments plus durs, des moments plus faciles. Chaque enfant est différent aussi. Hein. Il y en a que les premiers dormaient très vite, il n'y avait aucun souci. Ils n'ont pas compris avec le deuxième ce qui leur est arrivé. Voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Voilà, après, évidemment, des petits conseils qu'on peut apporter, ritualiser, voilà.
Voilà, on a entendu l'histoire hein, du rituel, l'histoire voilà. Du doudou.
C'est ça.
Pour accompagner dans le sommeil,
voilà,
se mettre au calme. Bon, bien sûr, les besoins primaires qui doivent être, respectés. Et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore sur... Moi, je dis qu'il ne faut pas se mettre trop de pression non plus. Essayer de ne pas se mettre trop de pression. C'est sûr que quand on a été réveillé déjà 6 ou 7 fois, qu'il est 5 heures du matin... Parfois, on a plus envie de le secouer qu'autre chose, mais se retenir, bien sûr. voilà, moi je sais que mon premier, ça a été très compliqué pour le sommeil, qu'on s'est mis beaucoup de pression pour ne pas le prendre dans le lit, etc., etc. Aujourd'hui, je regrette, sincèrement. Je pense qu'on aurait passé de meilleures nuits. On aurait dû le prendre avec nous, dans le lit régulièrement, et puis dormir tous ensemble, quoi. Voilà. Plutôt que de se lever 5 fois, d'aller remettre la susu, le doudou, d'aller lui parler, et de finir par s'énerver, par le détester, par détester l'autre. Parce que, voilà, il faut savoir que l'absence de sommeil engendre beaucoup de choses.
Ah oui, tout à fait. Au niveau conjugal, ça peut être très oui. Beaucoup de tension.
Ah oui, sûr, beaucoup de tension.
On est très fatigué, on est très très fatigué.
Alors, ouais. Quand on allaite, on dit qu'on a des hormones qui permettent de mieux récupérer.
Oui, c'est l'ocytocine.
Voilà.
L'hormone de la femme enceinte et l'hormone de l'allaitement, hein, ce qu'on appelle. En fait, le processus, enfin, c'est très très bien fait, la nature est très bien faite, c'est-à-dire qu'il se passe que quand la maman allaite son petit, elle va produire de l'ocytocine qui va l'aider à se rendormir. C'est un phénomène naturel, en fait. Voilà, c'est la nature qui produit ça. Et l'ocytocine a aussi cette particularité que beaucoup de mères reprochent à leur compagnon ou compagne, c'est de ne pas entendre le bébé pleurer. Et elle, si. Mais oui, parce que l'ocytocine produit une espèce d'hyperacousie. Enfin, on est dans une hypervigilance du bébé. Mais ça, c'est produit par l'ocytocine. Donc, c'est pas pour rien que les mères, souvent... moi, j'ai des souvenirs de... À peine, ils faisaient... Je me réveillais. C'est magique, quoi. Il a à peine pleuré que déjà on est réveillé, quoi. Alors que on regarde à côté, et mon compagnon, il lui dort, hein, sans aucun problème. Après, je pense qu'elle a dit, moi, un mot qui m'intéresse, c'est accompagner. C'est-à-dire qu'on peut pas empêcher l'enfant de se réveiller. Mais on peut accompagner pendant un certain temps. C'est ça qui est dur, c'est dans la longueur, en fait. Ce qui est dur, oui, c'est la longueur. Ouais, c'est pas tant que l'enfant se réveille. Bon, il se réveille. Ça arrive, ok, mais c'est le manque de sommeil qui est dur. C'est, vous savez, le manque de sommeil est une vraie fait partie des processus de torture.
Oui.
Hein,
on torture les gens en les empêchant de dormir.
Et les gens meurent du manque de sommeil. Ouais. C'est une réalité. C'est voilà. Donc évidemment, c'est une torture. Voilà, c'est une vraie torture quand ça fait des mois.
Conséquences sur la santé quand même.
Ah, très importante.
La dépression, ah, oui. L'obésité, manque de concentration,
irritabilité,
etc.
Alors on va écouter justement tout de suite un témoignage d'une maman quand ces troubles du sommeil persiste.
À partir de quand ça a été compliqué pour votre fille, le sommeil ?
J'ai envie de dire à partir de 12 mois. Bon, bien avant, c'était un nourrisson, donc les nuits n'étaient pas complètes. Hein. Mais à partir de 12 mois, quand on a décidé que... Parce qu'avant, elle dormait du coup dans la même chambre, dans un lit à côté, et je l'allaitais. Quand on a décidé qu'elle prenne sa chambre à 12 mois, là, on est passé par toutes les phases. Hein. Ça a été jusqu'à l'enfer, à vouloir la mettre carrément dehors, tellement elle nous embêtait dans notre sommeil. L'enfer a commencé à partir de 12 mois, mais ça continue encore, puisque que maintenant elle a aujourd'hui 12 ans et demi et elle dort dans mon lit. Et on avait fini par lui dire, écoute, pour nous dormir, parce qu'on allait travailler le matin, tu t'endors dans ta chambre et on t'installe un matelas par terre dans la nôtre, et si dans la nuit ça le fait pas, tu viens dans notre chambre, parce qu'on n'en pouvait plus, quoi. Elle dit que c'est compliqué pour elle d'être seule dans sa chambre, que le silence l'angoisse, que voilà, elle a même avant, elle pouvait aller dormir chez les uns et chez les autres, ça s'est durci, elle va plus dormir chez les uns et chez les autres. Alors elle est passée par cette idée que il y avait eu la peur des cambriolages, il y avait tout ça, et puis voilà. Régulièrement, je repars, je lui dis que bon, c'est pas voilà, qu'elle est grande, qu'elle est formée, que maintenant c'est une jeune fille, qu'il est temps qu'elle aille dans sa chambre, que elle pourrait l'expérimenter, mais ça reste très compliqué pour elle. Alors est-ce qu'il faut que j'aille aussi j'imagine hein, que de toute façon on est deux dans une relation et que forcément j'induis peut-être des choses inconsciemment, mais j'avoue que sur ce terrain-là, je ne me bats plus.
Et pour vous, le sommeil, c'était quelque chose de compliqué ?
Oui.
Enfin ?
Oui. Oui, d'ailleurs, je me suis vraiment questionnée aussi sur qu'est-ce que moi je pouvais induire, qu'est-ce que s'était passé pour moi au niveau du sommeil. Et je me perçois que moi, j'ai dormi avec ma sœur, mais de fait, parce qu'il n'y avait qu'une chambre et qu'on partageait le même lit même. Et que déjà, j'avais besoin de lui tenir la main, en tout cas d'être rassurée par sa présence. Alors, est-ce que moi, j'ai induit ça inconsciemment chez ma fille ?
Et jusqu'à quel âge vous avez dormi avec votre sœur ?
Alors, j'ai dormi avec ma sœur jusqu'à l'âge de 8 ans, mais après j'ai dormi avec mon frère dans la même chambre, en lit superposé, et j'ai dû avoir ma chambre, je devais avoir, je pense, 11-12 ans. Mais là, ça n'a pas été compliqué, par contre, de dormir seule dans ma chambre après. Par contre, je pense que jusqu'à l'âge de 10 ans, j'étais quelqu'un de très peureux, et c'était compliqué pour moi. Et voilà, et maintenant, c'est plus le cas.
Et vous dormez bien ?
Je dors bien, je peux même dormir très profondément.
Voilà, donc 12 ans qui n'arrive pas à aller dans sa chambre, aller dans son lit, à dormir seul, sans une présence. Qu'est-ce qu'on peut dire, Maud ?
Là, le souci, c'est que là, on est quand même dans quelque chose qui s'est installé, quoi.
Oui.
Pendant, alors déjà, 12 mois, pourquoi 12 mois ? Alors moi, j'ai souvent tendance à poser aux parents un peu la question de qu'est-ce qui s'est... Est-ce qu'il y a eu un événement?
En fait, elle a arrêté l'allaitement à 12 mois.
Elle a arrêté l'allaitement à 12 mois, c'est exact.
Donc elle a pensé qu'elle pouvait la mettre dans sa chambre.
Et ça n'a pas marché. Non. Elle dit aussi qu'elle-même a eu des soucis d'endormissement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle induit? Elle n'a pas tort. Alors, je pense que là, il y a peut-être quelque chose à travailler dans ce que ça joue pour elle. Après, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y a aussi la chose qu'il est important que l'enfant puisse se confronter aussi au fait d'être seul. Et cette petite, elle n'a jamais été confrontée. Et du coup, ça vient envahir un peu tout maintenant. Et là, maintenant, elle est adolescente. Donc, effectivement, je comprends cette maman qui dit c'est compliqué, son corps change. Voilà, là, elle est adolescente, quoi. Donc, mais elle n'a jamais, cette jeune fille, fait l'apprentissage de ce que c'est dormir seule, vu qu'elle n'a jamais dormi seule. Donc, je crois qu'elle n'a même plus, elle sait même plus les outils possibles, quoi. Enfin, là,
elle s'en croit même
pas. Elle s'en rend même pas capable. Voilà, c'est ça.
Elle peut pas éprouver le fait qu'elle en est capable. Ouais. Voilà.
Donc là, c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être un travail à faire, petit accompagnement mère-fille, pourquoi pas, pour travailler la séparation. Ça peut vite se débloquer. Hein.
Oui.
Alors, 45% des 25-45 ans considèrent qu'ils ne dorment pas assez. Tu en parlais tout à l'heure, Maude. Mmh. Et puis 13% des toujours 25-45 ans, cette tranche d'âge, qui elle, considère que dormir est aussi une perte de temps. Voilà, c'est un sondage INSERM. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous, c'est un souci?
Moi, j'adore dormir, donc il n'y a pas de souci. Après, ce qui est un peu inquiétant, pour le coup, c'est le fait que l'homme dort moins qu'avant.
Oui.
En 50 ans, on a quand même perdu du temps. Et ça questionne. Après, je crois qu'on est dans une société tellement agitée, tellement speed, avec des rythmes de vie, tellement une journée, il y a plein de choses dedans.
On est très, très sollicité.
Ouais.
Et on ne sait pas dire stop, on ne sait pas se mettre sur off.
Moi, le nombre de mères qui me disent qu'après le coucher des enfants, elles vont plier du linge, passer le balai, cuisiner pour l'enfant.
Le lendemain.
Il y en a, anticipation.
Hein.
Non, mais y en a,
c'est un autre débat, ça, la place des femmes, l'égalité dans les tâches ménagères avec les hommes. Là, on part sur autre chose.
Mais c'est la société, c'est-à-dire qu'on traîne à se coucher, on dort de plus en plus tard parce qu'on a plein de choses à faire. Et puis effectivement, le monde a changé. Il y a la place de la femme qui a changé. Alors c'est vrai que ça fait peut-être partir un peu loin, mais faut entendre aussi que les femmes travaillent maintenant. Avant, les femmes ne travaillaient pas. Il y a une cinquantaine, soixantaine d'années, il y avait la femme au foyer qui avait le temps de faire toute la journée ce qu'il y avait besoin à faire dans une maison. Maintenant, la femme travaille. Sauf que les tâches ménagères, elles ne se font plus. Ils les font quand maintenant? Ils les font le soir. Après, souvent les parents disent il y a une deuxième journée après la journée.
C'est ça.
Et effectivement, le sommeil prend un coup. Hein. Le sommeil en prend un coup, hein, effectivement.
Après, je pense qu'on n'est pas tous égaux aussi. Non. Moi, je suis quelqu'un qui dort peu. Ça fait toujours.
C'est-à-dire peu.
Il faut des chiffres.
6 heures, 7 heures.
Oui, 6 heures, 5 heures, 4 heures.
Oui. C'est vrai?
Oui.
Waouh.
J'en vis pas plus mal. Bon, des fois, je me rattrape d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Je me réveille à 10 heures, je me dis, oh là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression d'avoir perdu toute ma journée, que la journée passe comme très rapidement. Mais c'est quelque chose qui, certainement aussi, un peu...
Tu fais partie des 13% qui pensent que dormir, c'est perdre son temps?
Non, pas forcément, mais je pense que c'est génétique, parce que côté de mon père, voilà, c'est tous des petits dormeurs, donc... Et ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'avec l'âge, apparemment, ça ne s'arrange pas.
Alors, absolument, mais ça, c'est prouvé, c'est, ça. Hein, c'est physiologique.
Voilà. C'est physiologique, voilà, tout à fait.
Voilà, on dort moins en vieillissant, hein, on dort moins bien, la qualité du sommeil diffère, on a un sommeil plus léger.
Mais on a moins de besoins.
C'est aussi une histoire de mélatonine. C'est-à-dire, on a moins de besoins en sommeil.
Oui, voilà. Je pense qu'à l'adolescence, il y a un besoin énorme. Bon, petit bébé, évidemment, il y a un besoin énorme. Il qui revient à l'adolescence, où le besoin de sommeil était très, très important, puisque physiologiquement, le corps, hormonalement, enfin, tout ce qui s'accompagne, puis en plus la croissance, etc., fait que l'ado a besoin énormément de sommeil. Et que notre rythme tel qu'il est chez nous, hein, en France, défini pour les ados,
est très mal fait.
Très mal fait.
On est d'accord. Les ados se réveillent après 18h. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, si vous avez un ado à la maison. Après le repas, d'un coup, il se met à sauter partout.
C'est cela.
Il veut sortir, il veut faire des choses. Alors qu'on lui dit, non, mais là, c'est le moment où il va falloir se calmer. Hein, aller éventuellement se doucher, passer au lit, enfin bon voilà. Enfin pas à 18h bien sûr,
oui,
hein,
mais bon,
voilà.
En tout cas, on est
oui,
sur, on
voilà, a nous on commence à fatiguer voilà. Un petit peu, mais lui c'est là qu'il se réveille. Ouais. Par contre le matin pour aller à l'école.
Ah il y a là personne, là il y a personne, c'est-à-dire qu'on compte les minutes même à... Mais non mais attends, le bus c'est à 7h20, alors je me lève.
Il est 7h18.
7h. Même si j'ai 10 minutes de marche,
je suis large.
C'est bon.
Je suis large. 7h18, je suis large. Voilà.
C'est effectivement très compliqué, mais ils ont des besoins énormes. Après, petit à petit, le besoin de sommeil physiologique, on va dire, bon, il diffère un petit peu de chaque personne, mais diminue. Moins, plus qu'on vieillit, moins ce qu'on a physiologiquement besoin de sommeil. Et puis, effectivement, il y a la mélatonine aussi qui diminue un petit peu, mais en tout cas, le besoin voilà, physiologique est moindre.
Alors, on va conclure cette émission parce que c'est déjà l'heure. Virginie, vous nous avez amené quelques livres. Vous avez fait une petite sélection sur les livres consacrés au sommeil pour les parents et pour les enfants. Dites-nous.
Oui, exactement. Donc, déjà, pour les parents, nous avons à la médiathèque une section parentalité et notamment plusieurs ouvrages en psychologie de l'enfant dans lequel nous pourrons retrouver plusieurs ouvrages mentionnés par Valérie Orvin précédemment dans son témoignage. Donc on peut retrouver les ouvrages d'Isabelle Filioza, du docteur Catherine Guéguen. Elle nous a également parlé du docteur Rosa José, Dormir sans larmes. J'aime beaucoup aussi cet ouvrage hein, qui m'a aidée également dans ma vie de jeune maman. Un documentaire très bienveillant qui va donner des petites astuces, mais sans être moralisateur hein, auprès des parents. Vraiment un ouvrage plutôt rassurant, chaleureux et qui va donner plus les clés du développement de l'enfant, quels sont les besoins de l'enfant. Voilà, ça va vraiment partir de l'enfant plus que d'une méthode. Et pour les plus petits, cet ouvrage que j'aime beaucoup, donc d'Astrid Desbordes, hein, qui a écrit notamment Mon amour ou encore Ce que papa m'a dit, qui est assez connu, elle a écrit également Au lit. Donc on retrouve le petit Archibald avec sa famille. Donc c'est le soir, c'est l'heure d'aller se coucher. Et donc dans l'album, c'est le petit garçon qui s'exprime et qui dit « Ah là là, c'est bien agité, le soir tout le monde a l'air bien tracassé. » La maman raconte une histoire, le papa vient encore lire une deuxième histoire, puis une troisième. Moi je rallume la lumière.
Mais que se passe-t-il ?
Voilà, la maman revient, fait un câlin. Puis à minuit, il descend, il voit que c'est la réunion de crise dans la cuisine entre le papa, la maman et également la grand-mère. Et lui, avec beaucoup d'humour, raconte vraiment, il s'agit de trop hein, dans cette famille. Toutes les heures, ils viennent me voir, ils me disent des choses, ils me racontent des histoires, ils n'arrêtent jamais. C'est un peu fatigant. Donc voilà, beaucoup d'humour. Mon papa qui arrive encore avec... des déguisements ou autres pour essayer, qui me montre comment dormir, mais pour lui ça marche bien d'ailleurs. Et donc il raconte qu'à 4h du matin, c'est à lui de tout faire, hein, d'aller border sa maman, d'éteindre la lumière de son papa, etc. Et qu'enfin, quand arrive le petit matin, enfin là il peut aller se coucher et dormir.
Merci beaucoup, vous en avez un deuxième ?
On a plusieurs ouvrages, on a aussi donc chez
les tout petits,
là,
un petit livre à toucher,
aux éditions, oui.
Le livre des dodos.
Voilà. Donc, à la collection Petit Doux, qui font plein de livres tout en douceur. Donc, voyons voir s'ils vont aider à l'endormissement, hein, pour l'histoire du soir qui est bien connue pour favoriser le sommeil et créer un moment de partage enfant-parent.
Où là, le papa peut s'investir complètement.
Exactement. Donc, il y a des dodos au chaud, avec ce petit ours, des dodos très doux, où on voit la maman koala ou le papa koala serrer fort son petit, etc. Donc, qui explore un petit peu les doudous avec des illustrations faites en feutrine, à toucher, tout en douceur. Peut-être pour aider les enfants à s'endormir tôt, qui sait.
Merci beaucoup Virginie, merci de nous avoir accueillis à la médiathèque Confluence de l'ODEV. Merci à Anne Martinez qui était à la technique de cette émission ce soir. Merci Anne-Marie, je rappelle, coordinatrice du programme de réussite éducative sur l'ODEV. C'est bien ça ?
C'est tout à fait ça. Merci, Laurence Arsac, éducatrice spécialisée pour la Maison des adolescents de l'Hérault.
Et merci à Maud Fréchoux, psychologue, et pour l'école des parents et des éducateurs. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée demain, samedi 26 mars, si je ne me trompe pas, et ce sera à 13h. Au revoir à tous et bonne nuit.